Vous êtes bien sur Radio B. Vous écoutez cette chronique du passé quelques jours après le nouvel an. C'est le moment des vœux. Nous utilisons notre téléphone ou le smartphone, délaissant l'écrit. Le téléphone est devenu un élément de notre vie quotidienne, en permanence à portée de main ou même dans la main. Nos parents ou grands-parents se souviennent du téléphone en bakélite. Il leur fallait actionner une manivelle, décrocher le combiné et ensuite attendre la voix d'une opératrice qui les mettait en relation avec le correspondant demandé. Les temps ont bien changé. Mais savez-vous quand le téléphone est arrivé chez nous, en Bresse et Dombes? Avec Rémi Riche, l'historien de nos contrées, et au titre des Chroniques de Bresse, nous vous proposons cette histoire.
Allô?
Allô, allô, James, quelle nouvelle, absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour?
Bonjour Rémi, meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Bonjour Martine, meilleurs vœux à vous-même, à Radio B et à tous les auditeurs.
Cette période est encore celle des surprises. Et là, Rémi, vous nous en offrez une. Vous nous offrez l'histoire inédite des débuts du téléphone. C'est étonnant qu'aucun historien n'ait traité ce sujet.
En effet, certains objets s'incrustent dans notre quotidien et lorsqu'ils nous deviennent familiers, voire indispensables, tout le monde en a oublié l'origine.
Où l'avez-vous retrouvé ?
Aux archives départementales de l'Ain, là où notre mémoire collective est conservée. Nous avons évoqué le développement du téléphone lors de notre chronique consacrée à l'hôtel des postes de Bourg en septembre dernier. Il restait à chercher les origines dans les archives.
Le téléphone a été inventé en 1876. 3 ans plus tard, Paris l'expérimente. En 1881, Lyon compte 23 abonnés. Quand le téléphone est-il utilisé dans notre département ?
D'abord à ses extrémités. Dans 2 communes proches de Lyon et 2 autres proches de Genève, ou plutôt de la Haute-Savoie. Ensuite à Bourg. Cette dispersion inquiète le ministère qui alerte le préfet de l'Ain. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la ville de Bourg.
En cette fin de 19e siècle, le téléphone existe déjà dans la ville.
Oui, mais à la gare de chemin de fer. La compagnie PLM, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, utilise le téléphone pour son seul service. Il n'est pas accessible au public.
Et alors quand ce public a-t-il accès au téléphone?
Cela prendra un peu de temps. L'hôtel des postes, l'actuel centre Camus, est ouvert au public en juin 1897 pour la poste et le télégraphe. Ce public souhaite que le téléphone soit ajouté.
Le conseil municipal prend en compte cette demande.
Oui, pendant la construction du bâtiment, en juillet 1896, il souhaite installer une cabine téléphonique à l'hôtel des postes. Un câble souterrain est tiré depuis la ligne du chemin de fer. Peu après, 47 négociants et industriels de Bourg souhaitent un réseau urbain, interne à la ville, et relié au réseau national. Le téléphone représente un progrès nécessaire à leurs activités.
La ville y est favorable.
Bien sûr. Elle se décide pour une ligne à construire entre Lyon et Bourg. La ville la finance par un emprunt, progressivement remboursé grâce aux futures recettes.
L'hôtel des postes peut-il recevoir cette ligne nouvelle?
Non, il faut un aménagement. L'architecte départemental, Tony Ferret, conçoit une élévation au-dessus du dôme. La ville ne veut rien de disgracieux. L'aspect décoratif est privilégié, malgré le surcoût. Une tourelle est ainsi construite en 1899. L'année suivante, le téléphone est ouvert au public, averti par un communiqué dans la presse. Vous allez nous le lire, Martine.
À partir du 20 mars 1900, le circuit téléphonique Bourg-Lyon sera ouvert au public au moyen de la cabine installée dans la salle d'attente de la recette principale des postes et des télégraphes de Bourg. Ce communiqué précise les villes désormais accessibles par le téléphone.
Les Burgiens peuvent désormais communiquer avec 22 départements. Le réseau urbain est-il installé dans la ville?
Oui, peu après, au cours du second semestre de l'année 1900, pour 36 abonnés. Au même moment, la ville accepte que ce réseau soit intégré au réseau départemental.
Le département établit donc un réseau.
Où il étudie un projet depuis le printemps 1898. Le ministère a alerté le préfet car des communes demandent leur attachement au réseau national. Le tout sans cohérence. Il faut un projet unique, regroupant les lignes à construire. Le ministère a dressé une carte, fixé les règles. Le préfet transmet l'ensemble au département. Un emprunt est à souscrire.
Le Conseil général étudie ces dossiers ?
Oui, à plusieurs reprises. Il en accepte le principe en août 1899, puis l'adopte le 25 avril 1900.
Combien de communes acceptent d'adhérer au réseau ?
61. La convention avec le ministère est signée en février 1901. Les travaux débutent. Les lignes sont placées en bordure des voies de chemin de fer chaque fois que cela est possible. Le chantier est de longue haleine. Le département pense déjà au second réseau. Il envoie une circulaire à 380 communes de l'Ain.
Combien adhèrent à ce deuxième réseau ?
157. Une nouvelle convention est signée après la décision du Conseil général d'août 1903.
L'extension du réseau se poursuit ?
Oui, par un troisième réseau, étudié en avril 1905. Avec 101 communes adhérentes, puis un quatrième en 1910.
Les années s'écoulent. Les lignes parcourent nos campagnes.
En effet, à l'automne 1911, un bilan est dressé. Dans le département, 76 communes ne sont pas encore dotées du téléphone. Elles sont interrogées. 50 accepteraient de se raccorder. Mais seules 26 communes peuvent être retenues dans le cadre du cinquième réseau.
Nous avons évoqué les principes généraux. Sur le terrain, comment cela se passe concrètement ?
Beaucoup de communes sont reliées au téléphone entre 1902 et 1905, sur l'ensemble du département. Elles le sont en fonction de la cohérence du réseau. Ainsi, des communes du Bugey, a priori difficiles d'accès, sont raccordées avant des communes de plaine. Et deux communes riveraines sont desservies avec plusieurs années de décalage à cause des raccordements.
L'État respecte-t-il ses remboursements ?
A priori, oui. Des remboursements sont effectués, les sommes augmentent et le versement devient trimestriel. Aucune contestation, aucune réclamation ne sont dans les archives. On peut penser que les engagements sont respectés.
Les communications sont-elles comptabilisées ?
Sans aucun doute. Car elles servent de base pour les remboursements. Leur nombre n'est pas indiqué sur les bordereaux consultés. Cependant, une note de service retrouvée donne des indications. Par exemple, pour les 13 et 14 août, en 1912, 1952 communications sont échangées avec Lyon et en 1913, 2441. Au bureau de poste, l'attente d'une communication est parfois trop longue et les demandeurs renoncent. Ils sont 107 pour une seule journée d'août 1913, pour la seule liaison Bourg-Lyon. Le directeur départemental souhaite aussi un renforcement des liaisons avec les villes des départements voisins. Tout ça n'est qu'un aperçu de la situation. Le téléphone est donc plus ou moins victime de son succès.
Le téléphone s'ajoute à la poste et au télégraphe. Les communes ont besoin de locaux adaptés.
À l'origine, les communes désignent un lieu où installer la cabine téléphonique, souvent au café du village, et le cafetier reçoit une rétribution communale. Ensuite, des bureaux de poste sont édifiés dans les communes de quelque importance.
Comment réagissent les habitants lorsqu'une commune ne se raccorde pas au réseau départemental ?
Nous avons l'exemple de Bonbois, au bord de la rivière d'Ain, où les habitants se regroupent en syndicats en 1912 pour se substituer à leur commune. En outre, un refus pénalise des communes voisines. Ainsi, Châtillon-sur-Chalaronne et Toissé ne sont raccordés qu'en septembre 1914, car des communes du secteur n'ont accepté le téléphone qu'en 1911.
Les archives conservent-elles des anecdotes ?
Ah, nous pouvons signaler qu'Alexandre Bérard, d'Ambérieu-en-Bugey, député, sénateur, président du Conseil général de l'Ain, est sous-secrétaire d'État aux postes et télécommunications de juin 1902 à octobre 1906, donc au moment où le réseau départemental est élaboré et construit.
D'autres anecdotes ?
Ah oui. Par exemple, c'est le Père Noël qui amène le téléphone à Césaria, mis en service le 25 décembre 1902. Avec le télégraphe, puis le téléphone, des fils aériens parcourent les campagnes. À l'époque, les vaches sont gardées par des jeunes de 10-12 ans. Ils s'amusent à viser les isolateurs en porcelaine avec des cailloux. Ils en cassent quelques-uns. Les communications sont interrompues. Il faut réparer. Les maires doivent intervenir. Des plaintes sont déposées. Les gendarmes enquêtent, mais ni vu ni connu. Un rappel à la loi est encore lancé en 1907, avec le tarif des contraventions.
Les intempéries entravent aussi le service.
Quelquefois, dans nos montagnes. Il arrive que la neige soit trop lourde pour les fils qui se brisent, parfois même pour les poteaux en bois.
Rien n'a vraiment changé. Nous terminons par...
Avec la suite de la chanson de Ray Ventura, emblématique d'une époque. Au revoir, à bientôt sur Radio B 90 FM.
Au revoir, au mois prochain.
Allô, allô, Martin, quelle nouvelle ! Ma jument grise, morte aujourd'hui ? Expliquez-moi, cocher fidèle, comment cela s'est-il produit ?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Elle a péri dans l'incendie qui détruisit vos écuries. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Pascal, quelle nouvelle ! Mes écuries ont donc brûlé. Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé ?
Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla, madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien.
Allô, allô, Lucas, quelle nouvelle ! Notre château est donc détruit ? Expliquez-moi, car je chancelle, comment cela s'est-il produit ?
Eh bien voilà, madame la marquise, apprenant qu'il était ruiné. À peine fut-il revenu de sa surprise, comme si le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château, qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'en un moment, on vit périr votre jument. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien.